L'invité culture.
L'invité culture est un autre pianiste et compositeur lui-même et musicologue. C'est Carole Beffa qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, Carole Beffa.
Vous avez écouté attentivement ses inspirations du week-end. Vous êtes plutôt contrebasse de Renaud Garcia-Fons ou piano de Katia Bougnatichvili?
J'ai envie de dire les deux, mon général. J'ai déjà eu l'occasion d'entendre cette incroyable contrebasse dans ces lieux mêmes. C'était à l'occasion d'une émission sur France Musique et je dois dire que j'ai été soufflé. Contrebassiste qui joue aussi bien dans l'aigu que le grave, qui improvise comme pas deux. Et puis, quant à Katia Bougnatichvili, je l'ai vue aussi à plusieurs reprises. C'est effectivement un dragon du piano. C'est quelqu'un qui a une...
Un dragon du piano? C'est quoi un dragon du piano?
C'est un compliment dans la bouche.
Je l'entends, mais j'aimerais juste en connaître non, c'est quelqu'un qui a, l'explicitation.
Je sais pas, je pense qu'elle a un toucher de... Enfin, c'est ce qu'on disait de Prokofiev, c'est une broyeuse d'ivoire, quelqu'un qui peut à peu près tout jouer et c'est toujours très impressionnant.
Carole Beffa, vous venez de faire paraître un livre tout juste il y a deux jours, hein, c'est tout récent. Ce livre s'appelle « Parler, composer ». Jouer, il est écrit à partir des cours que vous avez donnés pendant un an au Collège de France en 2012-2013. Votre leçon inaugurale, qui est d'ailleurs dans ce texte reproduit également, s'intitulait « Comment parler de musique ?» On entendait Katia Bougnatichvili jouer du Rachmaninov un petit peu, on en a entendu un petit peu. Comment parler de Rachmaninov ?
Eh ben là, si je devais parler de ce dont
compositeur
elle vient de jouer,
et pianiste lui aussi d'ailleurs.
Tout à fait, et génie de l'improvisation. J'essaierai de montrer en quoi ce thème apparemment extrêmement simple est fondé en réalité sur, on va dire, un rythme entêtant, presque plus que sur une mélodie. On pourrait aussi essayer de montrer en quoi cette harmonie chez Rachmaninov est à la fois tributaire de toute une tradition qui a montré à Chopin et à quelque chose d'éminemment russe, slave en tout cas dans l'âme, en ce qu'elle est très modale. On pourrait aussi essayer de ne pas être trop technique et d'essayer de parler dans ce cas-là plutôt d'interprétation et de voir en quoi le tempo que choisit la pianiste, en accord avec le chef certainement, a quelque chose d'élastique et en quoi ce rubato, cette élasticité justement du tempo permet au discours d'avancer. Voilà, ce serait la trois pistes. Il y a toujours une difficulté effectivement à parler de musique parce qu'il me semble qu'on est condamné par deux écueils qui sont un peu comme les limites du discours. C'est d'abord ne rien dire, être muré dans le silence parce que on considérait que la musique est ce je ne sais quoi, ce mystère qui ne peut jamais être vraiment approché. Et puis à côté de cela, vous auriez un discours probablement ultra technique, qui en réalité manquerait son but parce qu'au lieu de parler de la musique, de ce que l'on entend, au lieu de mieux nous faire entendre la musique, il aurait tendance peut-être à intimider l'auditeur en allant chercher là où, enfin ici ou là, dans des éléments de la partition, des choses qu'en réalité on n'entend pas. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que cette stratégie d'intimidation où on essaie de faire passer l'obscur pour du profond.
Alors le but, c'est de mieux entendre au final, d'en parler ?
Oui, je me suis rendu compte, en écoutant quantité de commentateurs, je me suis rendu compte aussi, probablement en écoutant mes élèves me poser des questions ou faire les exposés lorsque j'enseignais, que le mieux, c'est-à-dire ce qui me semblait être la valeur ajoutée qu'ils pouvaient apporter, c'était quand ils arrivaient à faire mieux entendre. Alors mieux entendre, ça peut vouloir dire quantité de choses. Ça veut dire effectivement se concentrer sur la musique elle-même et probablement pas sur des éléments qui seraient purement biographiques, parfois même anecdotiques simplement. Toute la question est de savoir dans quelle mesure cette dissociation entre l'œuvre et l'homme, quand on parle par exemple d'un compositeur, ou l'œuvre à la femme, va être préjudiciable à un discours sur la musique. Évidemment que les quantités d'informations que l'on peut apprendre sur la biographie d'un compositeur, et ça c'est le rôle de l'historien de la musique, entre autres personnes, vont nous apprendre aussi des choses sur la musique, mais il faut bien faire attention à ce que les deux soient dissociés dans l'esprit et que on arrive effectivement à les combiner dans une compréhension générale.
Est-ce que c'est pas encore plus difficile quand on parle de sa propre musique? Parce que vous le faites beaucoup de compositeurs, Carole Beffa, mais vous le faites aussi de votre propre musique que vous analysez, que vous prenez comme objet d'étude. C'est possible ça, de se dédoubler, c'est-à-dire de composer de la musique, d'être vraiment artiste-compositeur, et en même temps de prendre suffisamment de recul pour pouvoir savoir ce qu'on a fait et en parler à la fois techniquement, mais pour mieux faire entendre aux auditeurs?
Alors, il y a évidemment quelque chose de très fort dans votre question, au sens où je pense que je n'aurais pas du tout pu écrire ce livre il y a 10 ans ou 15 ans, où je n'étais certainement pas prêt à
vous
parler.
Vous étiez trop petit à ce moment-là,
voilà,
de toute façon.
J'étais trop jeune, et puis ce dédoublement dont vous parlez bien ne pouvait pas vraiment opérer parce que, d'abord, je n'avais certainement pas les clés de ma propre musique, étant probablement... non pas réfractaire à l'idée de style, mais étant incapable de cerner ce qu'il pouvait y avoir d'unité stylistique dans ma musique, si tant est qu'elle existe. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, ce qui m'a semblé, c'est que dans le cadre de cette chaire de création artistique, chaire annuelle de création artistique, dont...
Au Collège de France.
Au Collège de France, donc... donc ce livre fait comme une espèce de synthèse, a posteriori. Il est habituel, il est même presque exigé du titulaire, qu'il parle effectivement de sa musique et de celle des autres, quand la musique est à l'honneur. Ce que j'ai voulu faire quand je parlais de la mienne, c'était d'abord d'essayer de la mettre en relation avec d'autres, sans me mentir, et en montrant bien qu'elle s'inscrivait souvent dans un héritage. Et surtout, ça effectivement m'a conduit à essayer d'opérer ce dédoublement dont vous parlez. C'est-à-dire que je dois dire que de ce point de vue, le fait d'avoir affaire à un public et d'avoir pu tester, si j'ose dire, ces intuitions qui étaient les miennes face à un public et avec l'aide d'un piano, puisque j'avais toujours un piano à disposition pour ces cours, a été très utile. Ensuite,
public qui n'était pas nécessairement public de
tout à fait
de musicologue, de mélomane sans doute, mais
mélomane en général,
pas spécialiste.
Pas de spécialiste, comme c'est souvent au Collège de France, vous avez des étudiants,
mais de tout,
voir des retraités, des personnes qui sont inactives, enfin
de tout,
des actifs, de tout. J'imagine que ceux qui venaient suivre les cours avaient un intérêt au moins minimal pour la musique, mais il fallait éviter d'être trop technique. D'avoir un piano à disposition était évidemment très utile. Alors, ce qui a fait que lorsque j'ai retravaillé ces cours pour les exposer sous la forme d'un livre, pour les présenter sous la forme d'un livre, d'abord avec l'accord de mon éditeur Le Seuil, nous avons fait un site internet pour que les exemples musicaux puissent être à disposition du lecteur.
Parler-composer-jouer.com, où on trouve, je les ai pas comptés, mais près de 60 références
exemples, ouais,
musicales. On clique, c'est très simple. On l'a fait d'ailleurs, on l'a fait, hein, Carole Beffa. On l'a fait en particulier avec certaines de vos compositions, mais aussi avec d'autres, puisque vous disiez que c'était en relation avec d'autres compositeurs. Le premier d'entre eux, c'est Ligeti. Pourquoi Ligeti? Parce que vous lui avez consacré votre thèse. On va écouter une étude pour piano de
très
Ligeti.
Bien.
C'est page 92 dans le livre. Je crois que c'est la référence 10, peu importe, hein, parler, composer, jouer. On écoute. Pas besoin d'extraits très longs, là c'est un extrait de 34 secondes, ouais. On a des extraits d'une minute, mais c'est donc très important, Carole Beffa, d'avoir toujours la musique. L'idée, c'est pas de parler de musique pour ne plus l'écouter, au
exactement,
contraire, c'est pour mieux l'entendre, vous le disiez, donc on ne perd jamais l'écoute de la musique.
Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. Effectivement, là, avec cette étude Ligeti, qui est l'étude numéro 4, Fanfare, peut-être l'une des plus jouées, des plus enregistrées de ce compositeur, qui est décédé en 2006, j'en parle en essayant de montrer en quoi l'ostinato, c'est-à-dire le fait d'avoir de façon continue un mouvement très rapide de croche qui va balayer le clavier en étant partagé entre deux mains, avec, à côté de ça, un thème, lui, très rythmique qui vient s'y superposer. En quoi tout cela peut donner une impression assez incroyable d'énergie, va pouvoir se déployer de façon virevoltante, une espèce de kaléidoscope sonore, pendant une durée assez longue. Hein. Là, effectivement, vous le dites, c'est une trentaine de secondes, mais en réalité, l'étude dure à peu près 3 minutes. Et elle mérite ce nom de fanfare, parce qu'après, justement, ce thème désarticulé, très chaloupé, qui joue beaucoup sur les contretemps, qui a quelque chose d'éminemment chorégraphique, va se muer en une fanfare de cuivre, alors même qu'on reste évidemment au piano. J'ai voulu faire en sorte que mes goûts de compositeur, mes dégoûts, je ne crois pas. Peut-être qu'un autre livre parlerait de mes dégoûts, mais ça serait certainement moins important, moins intéressant.
Ça peut être intéressant.
Oui, c'est vrai.
Ça peut être intéressant. Ouais. Peut-être plus difficile d'en parler, quoique.
Oui,
je
sais pas. Parce que...
Vous essayerez.
Bon, éventuellement, voilà. C'est une idée que je soumettrai à un éditeur. Mais en tout cas, faire partager ses goûts, je pense que c'est essentiel. Il me semble malgré tout que l'on parle le mieux de ce que l'on aime. Avec une difficulté quand même, c'est que, encore une fois, lorsque vous êtes fasciné par une œuvre, vous pouvez avoir vous-même des difficultés à essayer d'en extraire le mystère.
Oui.
Mais j'ai tenté, pour quantité de chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique qui m'ont marqué depuis longtemps, d'essayer de le faire.
Et rétrospectivement, Carole Beffa, après cette année 2012-2013 passée au Collège de France à vous exprimer, essayer de transmettre cette parole sur la musique, est-ce que vous vous dites que vous sortez changé, c'est-à-dire est-ce que ça vous a servi différemment pour votre composition, même pour votre jeu, même pour votre regard ou votre écoute à vous, hein, de la musique?
Oui, je pense que dans plusieurs choses ça m'a changé. D'abord, l'activité de compositeur étant quelque chose d'extrêmement solitaire, le seul fait de parler à un public, alors aujourd'hui c'est ce que je fais dans le cadre de mes cours comme maître de conférence à l'École supérieure, à l'époque c'était devant un grand amphithéâtre, avec un rapport plus anonyme à votre public que vous ne connaissez pas, mais de toute façon c'est une chose qui vous permet de quitter l'angoisse de la page blanche, au moins un temps. Ces cours, il fallait évidemment les préparer consciencieusement, je l'espère, et pendant les 3 mois où j'ai enseigné, je n'ai pas composé une note de musique, je crois, parce que la préparation des cours, d'une certaine façon, me divertissait dans le bon sens du terme et faisait que je n'avais pas le temps et plus les angoisses pour composer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça permet évidemment de mieux formaliser, si j'ose dire, vos idées. La difficulté lorsque l'on est confronté soi-même à son activité de compositeur, c'est que l'on risque d'être atteint d'une certaine forme de myopie auditive, si j'ose dire, et de ne pas se rendre compte que, en réalité, les problèmes compositionnels auxquels vous êtes confronté et que vous pouvez difficilement faire partager à d'autres, des pairs, des amis, des collègues compositeurs, parce que cela supposerait qu'ils soient d'une extrême bonne volonté et qu'ils veuillent bien... pour une œuvre qui va, je sais pas, durer quelque chose comme 5-6 minutes et qui est pour orchestre, mais passer un temps fou sur une partition d'orchestre pour essayer de savoir si oui ou non vous avez orchestré ça comme il fallait, s'il n'y a pas de problème formel, etc.
Donc, c'est quand même très particulier.
De ce point de vue, c'est très particulier. Je pense que c'est une différence majeure avec l'activité d'un romancier, par exemple, ou d'un auteur de théâtre, on va en avoir un très bientôt dans mon studio, d'un réalisateur. Si vous êtes scénariste, le travail que vous faites comme scénariste est rarement un travail solitaire. D'abord, très souvent, les œuvres sont co-scénarisées. Ensuite, le travail même du réalisateur est par essence un travail collectif. Le compositeur, sauf quelques cas très exceptionnels, c'est quelqu'un qui est éminemment seul.
Bon, l'écrivain est souvent seul encore. Certains écrivent collectivement, mais l'écrivain reste seul. Non, ce que je trouve particulier, nous reparlerons de ça dans 2 minutes après les titres du journal, Carole Beffa, mais ce que je trouve très particulier, c'est cette capacité, vous le disiez tout à l'heure, de dédoublement, mais cette capacité à observer ce qu'on fait, à en parler, alors même qu'on pourrait trouver, un certain nombre d'artistes le disent comme ça, que c'est très difficile d'expliquer pourquoi on a fait ça. On y reviendra tout à l'heure avec votre fonction aussi de compositeur. Restez avec nous, il est 7h30 sur France Culture. On retrouve notre invité, le pianiste, compositeur et musicologue Carole Beffa, qui vient de publier « Parler, composer, jouer », cette leçon sur la musique tirée de son année de cours au Collège de France à Paris entre 2012 et 2013. Carole Beffa, vous nous disiez que vous étiez tout à fait capable d'être à la fois artiste et savant, c'est de toute façon vos trois casquettes, pianiste, compositeur, musicologue, et que vous arriviez à décomposer le travail de compositeur que vous faites. Donc j'aimerais qu'on parle composition maintenant, qu'on plonge dans la tête du compositeur que vous êtes. Comment composez-vous? Par exemple, vous êtes un fou de cinéma.
Oui.
D'abord parce que vous avez joué dans des films tout petits. Vous avez même joué Mozart dans la série de Marcel Buval. Vous avez incarné le fils de Lino Ventura dans La Septième Cible de Claude Pinoteau et d'autres. Vous écrivez aussi des musiques de films. Vous improvisez au piano sur des films muets. Alors, est-ce que votre univers de composition est un univers visuel? Est-ce que vous composez à partir d'images?
Je ne crois pas que je compose à partir d'images, sauf exception. En revanche, je me suis rendu compte que très souvent, la musique que je compose suggère des images mentales à mes auditeurs. Alors, il se peut tout à fait que ces images mentales ne soient pas les mêmes pour deux auditeurs différents, mais peu importe, je crois qu'une musique expressive est une musique qui pourra suggérer des images. C'est d'ailleurs assez étonnant. On a parfois le sentiment, quand on est compositeur, qu'il n'y aurait pas de pire insulte que « ça fait musique de film ». Or, d'abord, ça me semble totalement injustifié parce qu'il me semble qu'il y a à peu près autant de musique de film qu'il y a de compositeurs de musique de film. Si vous prenez la musique de Bernard Herrmann, ça n'a rien à voir avec celle de Lalo Schifrin, qui n'a pas grand-chose à voir avec celle de Michel Legrand, par exemple. Et puis surtout, je crois que la plupart des musiques écrites au XXe et au XXIe siècle, sauf peut-être la pointe la plus extrême de l'avant-garde, et encore, toutes ces musiques pourraient être d'excellentes musiques de film.
Il y a dans ces leçons que vous donnez et que vous écrivez maintenant dans votre livre, Carole Beffa, une leçon sur les clocks et les clouds. Alors, la composition en clocks and clouds, que vous définissez dans le livre, horloge et nuages, hein, c'est une expression qui a été inventée par le philosophe Karl Popper, qui a été appliquée ensuite à une composition de Ligeti en 1973. On pourrait dire qu'il y a un pôle contemplatif et lent, et puis qu'il y a un pôle dynamique et nerveux. C'est ce que vous retrouvez dans votre composition. Expliquez-nous ça.
Alors, je me suis rendu compte, après, on ne peut pas dire que c'était mes premiers essais de composition, qui étaient vraiment des essais d'extrême jeunesse quand je devais avoir 7 ou 8 ans, et qui n'étaient certainement pas très réflexifs, mais purement intuitifs. Mais quand j'ai composé vers l'âge de 22-23 ans, je me suis rendu compte que j'allais assez naturellement vers deux directions, deux pôles, qui serait l'un, effectivement, comme vous l'avez dit, ce pôle extrêmement contemplatif, plutôt harmonique, plutôt nuageux. Avec
le clouds, donc.
Voilà, c'est le clouds. Et un autre, beaucoup plus haché, rythmique, souvent fondé sur des mouvements perpétuels, très haletants, pour lesquels on respire peu, et ça serait plutôt le clocks. Pourquoi clocks et clouds? Parce que, vous l'avez dit, donc Ligeti s'inspirant lui-même de Karl Popper, dans clocks and clouds, a essayé de théoriser le passage de l'un à l'autre de ces états musicaux, comme on parlerait d'états gazeux, par exemple. Moi, je veux dire que c'était purement intuitif. J'étais soit dans une espèce d'indolence, pas coupable, mais on va dire une espèce de musique qui serait dans la pure sensualité. Ça, c'était probablement le
temps de votre jeunesse.
Voilà. Et puis, progressivement, ça aurait pu être d'ailleurs le parcours inverse. Et puis peut-être que je reviendrai à mes
amours premières. Mais progressivement, la nervosité vous a gagné.
Exactement.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Carole Beffa, vous racontiez, vous transmettiez dans vos leçons, en ayant un piano à côté. Mmh. Nous ne l'avons pas, mais nous sommes allés voir sur le site parlercomposerjouer.com pour prendre des exemples. On va écouter des exemples. Alors d'abord, un exemple de Cloud avec une étude, l'étude numéro 6 de Carole Beffa.
Thank you.
parcours, c'est effectivement assez lent, assez contemplatif. On va maintenant écouter un exemple de cloque avec le feu d'artifice, les feux d'artifice, toujours de vous, Carole Beffa, le quatrième mouvement avec le quatuor Vendôme. Carole Beffa, je vais vous dire, puisque je suis la première auditrice hein, et votre élève aujourd'hui, ce que ça m'évoque, c'est moins des images mentales. Vous disiez, ça peut suggérer des images mentales que des sentiments. En l'occurrence, là, un sentiment d'urgence pour le cloque, comme si votre, comme si les sentiments ou les humeurs ou les états étaient propices à la composition pour vous et pour nous qui recevons la musique.
Oui, alors je suis absolument pas réfractaire aux sentiments. Il se trouve que j'ai plutôt été attiré par la sensation. Je crois que Clouds comme Clocks, au début, était plutôt à percevoir comme des sensations, ce qui fait qu'il y avait un caractère peut-être plus immédiat, moins médiatisé par la réflexion. Donc, d'un côté, vous pouviez avoir des émotions extrêmement directes, et puis de l'autre, quelque chose d'un peu plus réfléchi. Mais je ne suis absolument pas réfractaire à l'idée que la musique puisse transmettre des sentiments. Je pense que la plupart des musiques...
Émotions, on pourrait dire, ou des sensations.
Ou des
émotions.
Émotions, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le compositeur, au moment de se mettre au travail, soit en prise avec l'une uniquement de ces émotions. Enfin, il est évidemment soumis à différentes choses, et souvent l'état nerveux dans lequel il se trouve, son état émotif, n'a pas grand-chose à voir avec ce que la musique qu'il compose sur le moment va pouvoir produire chez son auditeur.
C'est Pascal Dussapin, compositeur lui-même, hein, qui dit que la mélancolie a toujours été un moteur.
Oui.
Carole Beffa.
Chez moi aussi, la mélancolie est souvent un moteur, ce qui d'ailleurs a une incidence qui peut être parfois assez douloureuse, parce que ça veut dire que vous êtes souvent dans un état un peu dépressif.
Ça conduit plutôt au cloud.
Oui, ça
pas
conduit,
nécessairement.
Ça conduit plutôt au cloud, on va dire de façon directe, mais vous pourriez aussi considérer, je crois que c'est mon cas parfois, que d'une certaine façon, par réaction, pour compenser, vous pourriez être au contraire amené à aller davantage dans une direction qui serait celle de l'hyper-énergie, du survitaminé, pour compenser encore une fois.
Alors il y a un autre facteur dans la composition qui rentre dans le processus de création, Carole Beffa. Un autre exemple où l'on entend des emprunts, des citations, des appels à des musiques anciennes ou des appels à des musiques actuelles. On prend un exemple, Manhattan.
Très bien.
Allez, Manhattan. On parlait de cinéma tout à l'heure, de film. Là, on est clairement dans Peur sur la ville, Carole Beffa.
Oui, oh ben,
avec cette suite volontiers ininterrompue de croches, je vous lis, hein, longue pédale pulsée, cette suite ininterrompue de croches est là pour créer un envoûtement hypnotique que ponctuent les interventions dans le grave du piano utilisées dans sa fonction percussive. Mais encore.
Un peu plus tard, j'insiste sur la fonction.
Ah oui, vous continuez, mais je ne vais pas tout lire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un peu. Pourquoi fonction percutive? Parce qu'un peu plus tard, le piano, avec des octaves brisées, va sonner au contraire comme une basse électrique. C'est d'ailleurs ce que je précise à l'intention de l'interprète, comme une basse électrique. L'idée, c'est pas nécessairement de faire sonner le piano comme tout sauf un piano, parce que heureusement que l'instrument est naturellement riche pour. Se prêter à toutes sortes de sonorités. Non, l'idée, c'est d'insister encore une fois, comme la plupart des musiques actuelles, sur cet aspect très directement immédiat. Il me semble que la musique contemporaine est parfois brouillée avec la vitesse. En tout cas, elle est brouillée avec un rapport très média au corps. Il y a une espèce de puritanisme, souvent chez les compositeurs, qui fait que ce qu'il peut y avoir de proprement corporel et souvent de chorégraphique dans la musique est parfois évacué, ce que je pense tout à fait dommage. Et si certaines musiques contemporaines pouvaient garder un certain sens de l'élaboration, de la sophistication et prendre des musiques actuelles, pop, techno, que j'ai voulu ici à ma façon imiter, si j'ose dire, ce côté purement immédiat, je pense que ça serait une très bonne chose.
Vous parliez de la mélancolie, enfin je vous lançais tout à l'heure, Carole Beffa, sur la mélancolie. Il y a aussi beaucoup d'humour et vous avez un chapitre passionnant qui s'intitule « Musique et imposture » dans lequel vous parlez de beaucoup de choses, mais notamment de cet album « Miroir » que vous avez enregistré et qui est constitué d'œuvres du répertoire que vous avez revisité avec des amis musiciens, revisité peut-être même détourné parfois, comme cette paraphrase, anticonformiste du Requiem de Mozart par Johann Fargeau. On écoute un extrait de Lacrimosa. L'humour n'est pas une imposture quand même.
Non, l'humour est très bien vu en musique. Il faut qu'il y ait un peu plus d'humour en musique peut-être.
Peut-être un peu plus d'humour, mais en tous les cas, c'est à lire, puisque vous parlez formidablement et vous écrivez maintenant la musique avec des mots et pas seulement avec des notes. D'en parler, composer, jouer cette leçon sur la musique qui vient tout juste de paraître au Seuil. On peut trouver en poche chez Flammarion les coulisses de la création que vous aviez fait, Carole Beffa, avec Cédric Villani. Vous avez aussi participé à un livre intitulé « 7 voix sur le bonheur ». Décidément, le chiffre 7 chez vous vous porte peut-être bonheur. « 7 voix sur le bonheur » aux éditions des Équateurs. Vous serez la semaine prochaine, jeudi, en concert à Radio France avec l'Orchestre National de France sous la direction d'Alain Altinoglou avec votre dernière création mondiale, Le Bateau Ivre. C'est une commande de musique nouvelle en liberté dans le cadre du Grand Prix lycéen des compositeurs dont vous avez été le lauréat en 2016. Et toutes les autres dates, vous avez un an de programme. On mettra tout ça sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Un grand merci d'être venu ce matin avec nous.